quartier est une émission qui a lieu tous les jours de 10h à 12h30. Elle est animée par Patrice, Antoine et Jacqueline. Nous vous proposons deux extraits d'émissions qui ont eu lieu le matin. L'une a pour trait « Vivre à Paris pour un chien ». Et la seconde, c'est une émission qui a lieu tous les jeudis et qui est animée par un médecin de quartier. L'extrait que nous vous proposons a pour thème l'allergie. Le thème qui nous intéresse aujourd'hui, vivre à Paris pour un chien, ça pose, on l'a vu, pas mal de problèmes. Mm-hmm. Bon, la pollution, on en a parlé. Des problèmes aussi, par exemple, on voit beaucoup de propriétaires de chiens, Groendal, des gros chiens, qui vivent avec justement leur animal dans 30, 40 mètres carrés, ce qui me semble, moi, complètement aberrant. On a eu donc quelques témoignages pendant toute cette première heure. Moi, ce que l'on souhaiterait avec Antoine, c'est d'avoir des témoignages de gens qui ne possèdent pas de chiens.
Oui, et puis, ma foi, qui ne sont pas spécialement peut-être d'accord avec ceux qui protègent les chiens. Enfin du moins, ceux qui ont des chiens, pas ceux qui protègent les chiens, bien entendu, parce qu'eux font une fonction tout à fait différente.
Oui, une réflexion que j'aimerais, dont j'aimerais parler, c'est, tu l'as dit tout à l'heure, assez justement, je crois, une question que je pose aux auditeurs donc, qui nous écoutent, et j'aimerais bien qu'il y en ait qui nous répondent. Est-ce que aimer les animaux, surtout à Paris, c'est justement de ne pas en avoir?
Oui, alors c'est une réflexion que j'ai expliquée tout à l'heure, qu'on entend. Bon, ben, c'est parce que bon, ils savent qu'ils ne peuvent pas
s'en occuper.
Alors
l'espace.
Alors ils sont conscients de toutes ces choses. Ils disent bon, plutôt que de le faire souffrir, je ne vais pas en prendre. Alors, je ne sais pas si cette réflexion, je ne sais pas comment on doit la prendre, c'est positif ou négatif. En tous les cas, ce genre de choses existe. Mm-hmm. Hein, beaucoup de gens font ce type de réflexion. Alors, tu as dit que tout à l'heure, ce que nous aimerions, c'est avoir quelqu'un qui n'a pas de chien et qui, évidemment, est assez, clairement le mot, qui est un petit peu en colère contre cette pollution, entre autres, ou pour certains propriétaires de chiens. Je rappelle notre numéro de téléphone, nous sommes ensemble jusqu'à 12h30, 340 70 28. Intervenez donc sur l'antenne. Mm-hmm. Radio Aligre est une radio donc de quartier, faite pour vous. C'est pour ça que donc tous les sujets, tu voulais
justement dire, oui. Par rapport au quartier, il faut savoir, peut-être que pas mal de gens ne le savent pas, que dans le 12e arrondissement, nous avons un club de défense des animaux.
Oui.
Qui est très efficace. Alors je vais donner son adresse et son numéro de téléphone. Ce club de défense des animaux se situe donc au 11 rue de Madagascar, dans le 12e arrondissement. Son numéro de téléphone, c'est le 340 77 41. Et bon, là, vous trouverez une écoute attentive, justement, à vous qui voulez adopter un chien, par exemple, ou un chat. Mm-hmm. Tous les conseils et les renseignements concernant, par exemple, les soins vétérinaires, comment retrouver un chien qu'on a perdu, ou comment en adopter un, donc, je le répète. Mmh. Il faut savoir, quand même quelques règles d'or quand on veut en adopter un. Comme l'a souligné la dame qui nous a appelé précédemment,
bien sûr.
Il faut toujours réfléchir d'une manière tout à fait concrète avant d'adopter un chien. Il faut penser aux servitudes que cela occasionne.
Bien sûr.
Un chien doit sortir au moins 3 fois par jour, c'est-à-dire 2 heures de balade quotidienne, au moins. Les frais vétérinaires et alimentaires, ça aussi c'est important parce qu'on peut on se rend compte qu'un chien, surtout les gros, ça coûte cher. Au bout du mois,
ça impute
le budget d'une manière importante. Les soins vétérinaires, la moindre piqûre coûte plus de 100 francs. Les consultations vétérinaires sont très très élevées, on l'a vu tout à l'heure. Là maintenant, les soins vétérinaires, je ne sais pas si tu le savais Antoine, sont majorés d'une TVA très importante qui est passée de 7% à 17%. Mmh. Alors ça, je sais que ça occasionne pas mal de remous chez les gens du métier, justement, ou les personnes qui s'intéressent au problème. Tout ça, c'est des choses à savoir quand on veut adopter un animal, parce que justement, on choisit donc de s'en occuper, et l'animal n'a pas forcément choisi, lui, de vivre dans des conditions qui sont parfois tout à fait regrettables.
Alors, moi, je me demande si, je ne sais pas si ça se fait, si on pourrait pas, bon, par exemple, je prends un chien, bon, j'adopte un chien, alors je me demande si on pourrait pas, d'une certaine façon, non pas faire un espèce de contrôle, c'est-à-dire de contrôle peut-être annuel,
oui.
Un contrôle tous les 6 mois, où le propriétaire du chien sera obligé d'amener son chien dans un centre pour un check-up médical, quelque chose comme ça. Tu me diras, ça reviendrait à ce moment-là cher. Mais ça serait peut-être une façon de contrôler un peu la vie de ce chien. Hein, plutôt que... Et puis, ce serait d'une façon un droit de regard sur... Je ne sais pas si ce serait possible de faire ça.
Toutes les précautions, moi je pense oui que c'est une bonne idée. En tout cas, pourquoi pas.
Ça revient
peut-être cher, mais il ne faut pas oublier non plus quand on est possesseur d'un chien à Paris, de le faire tatouer. Ça c'est important. Lorsqu'on perd un chien qui est tatoué, on a beaucoup plus de chances de le retrouver par la SPA, par le club des animaux du 12e, par exemple, quand c'est dans le 12e arrondissement, ils ont tout un fichier avec les tatouages concernant les différents animaux recensés sur le 12e arrondissement. Ça peut donc déjà faciliter les choses, puis surtout mettre le petit collier avec l'adresse et le numéro de téléphone où on peut joindre le maître.
Oui, mais
le
ça, c'est en cas de perte, mais dans l'éventualité d'un contrôle, voir si vraiment ces propriétaires de chiens. Gardent bien leur chien, c'est ça. Je parle d'un contrôle médical, quelque chose comme ça dans ce genre. Enfin, de toute façon, on attend donc vos appels au 340 70 28, voilà, si vous voulez intervenir. Le thème de notre émission, je vous rappelle, vivre à Paris, donc, pour un chien.
Je crois que nous avons une auditrice ou un auditeur, je ne sais pas, en ligne, qui veut intervenir.
Une auditrice en ligne, oui.
Oui, alors bonjour madame.
Bonjour.
Bonjour, excusez-moi, je reviens, je suis Eliane et je vous entends parler pour le tatouage. L'organisme officiel à Paris qui s'occupe de regrouper les tatouages de toute la France d'ailleurs, c'est la Centrale Canine.
Voilà, c'est ça, c'est le nom que je cherchais.
Voilà,
merci.
J'ai vu au 215 rue Saint-Denis,
oui.
7502 et le téléphone est le 233 61 67.
D'accord.
Bien.
233 61 67, mais je vous signale que cette centrale est ouverte que du lundi matin au vendredi soir. Donc samedi, dimanche, tous les grands week-ends, les ponts, elle est fermée. Donc un animal qui est seulement tatoué va rester à la charge de la personne qui va l'avoir regardé pendant des fois un week-end et des fêtes de Pâques ou de Pentecôte et c'est long. C'est très long de l'assumer à ce moment-là. C'est pour ça qu'il faut absolument engager les gens à laisser une médaille autour du cou de leur animal avec leur téléphone, le téléphone du travail, le téléphone des deux familles ou de la maison de campagne et de la maison de Paris, car souvent les gens se déplacent et on ne les retrouve pas dans l'immédiat. Et c'est ce que je voulais vous dire au niveau du marquage des animaux, des chiens.
D'accord. Okay.
D'accord. Je vous remercie beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
C'est nous qui vous remercions. Au revoir, bonne journée. Bien, il faut savoir aussi sur le 12e arrondissement que lorsqu'on perd son chien, un numéro de téléphone qu'on peut composer tout de suite, c'est celui du commissariat central de police qui se situe derrière la mairie, rue Bignon, 3 rue Bignon. Si vous avez un crayon et un papier, vous pouvez d'ores et déjà noter le numéro de téléphone. C'est le 628 26 85, 628 26 85. Là, il y a des gens compétents qui sont spécialisés pour recueillir les chiens perdus et qui peuvent... vous donner déjà pas mal de conseils et d'aides pour retrouver votre animal que vous avez perdu.
Oui, il y a, ça aurait pu être un petit peu le sujet, mais il y a ce que j'appelle, tu sais, les chiens qui accompagnent les aveugles. Ça, c'est
les chiens d'aveugles.
Les chiens d'aveugles, c'est assez fantastique, ça. On fera peut-être un jour une émission
avec eux
là-dessus. Oui. Moi, je voudrais parler d'un appel de la SPA. Donc, c'est un appel pour une nouvelle infirmerie au refuge de Gennevilliers. Vous savez que chaque jour, des animaux accidentés ou malades sont confiés au refuge de Gennevilliers, où là, vous savez, les soins leur sont aussitôt donnés et où ils guérissent et lorsqu'ils peuvent être sauvés sous bonne surveillance. C'est également dans cette infirmerie que sont gardés en convalescence les chats opérés donc par leur soins. Alors, mais ce bâtiment faisant fonction d'infirmerie devrait d'urgence être agrandi et réaménagé avec de nouveaux box, chauffage, écoulement, aération, etc., etc., pour faire face, bien entendu, aux besoins de plus en plus nombreux. Le coût des travaux a été évalué par les entrepreneurs dans les meilleures conditions à 250 000 francs. Et c'est pourquoi la SPA recherche de généreux donateurs qui, pour secourir les animaux en détresse, l'aideront à réaliser cette nouvelle infirmerie. Voilà, alors la SPA remercie d'avance tous ceux qui pourront répondre à cet appel.
Bien, 12h05 sur Radio Aligre, on a encore quelques instants à passer ensemble. Moi, je vous rappelle que le téléphone pour l'instant est libre, donc qu'on attend les témoignages de gens qui s'intéressent aux problèmes dont nous débattons depuis à peu près une heure. Alors vous qui n'avez pas d'animaux, justement à quatre pattes, un chien, pourquoi avez-vous choisi de ne pas en avoir?
C'est ça,
on aimerait le savoir. Et vos réflexions aussi, vos réflexions concernant le problème dont nous débattons. Mm-hmm. 340-70-28, donc Jacqueline, Patrice et Antoine. Je crois que nous avons une auditrice en ligne qui a justement quelque chose à nous dire. Allô, bonjour madame.
Oui, bonjour madame.
Bonjour.
Écoutez, je voudrais vous dire que j'ai plusieurs chiens et qu'on devrait être très très sévère pour les gens qui laissent leurs chiens faire leurs besoins sur les trottoirs. Moi-même, je me permets de leur faire des réflexions puisque j'en ai, parce qu'il n'y a rien de plus facile que de les promener dans le caniveau et les chiens y vont d'eux-mêmes toujours, toujours, toujours après. Mmh. Et donc c'est vraiment honteux de la part des gens qui ont des chiens. Alors c'est tout ce que je voulais vous dire pour tout de suite. Mais oui. Que vraiment, il faut que les maîtres, s'ils aiment leurs bêtes, qu'ils fassent des efforts d'aller dans les caniveaux. Et les chiens, il faut les conduire tout de suite au début de la promenade. Ah. Après, ils pourront aller où ils veulent. Mais c'est le début tout de suite de la promenade. Mmh. Et on lui dit, fais pipi, fais... Et c'est tout de suite.
Et vous sortez vos chiens régulièrement. Vous avez combien de chiens vous-même?
Trois
gros chiens?
Oui, parce que ce sont des petits chiens adoptés. Il y a des gros, des petits. Mmh. Et j'en veux toujours qu'un seul, mais il y en a trois. Et alors, figurez-vous qu'ils je les détache un peu. Oui. Et ils descendent tout seuls dans le caniveau, ils ont l'habitude. Mmh. Tout le monde est en admiration.
Ça vous pose pas de problème d'avoir trois chiens dans votre appartement?
Pas du tout, car les chiens, lorsqu'ils sont aimés... Et que l'appartement leur importe peu, j'ai une maison de campagne. Oui. Ils ne veulent pas y aller qu'une demi-heure. Ils préfèrent leur Paris.
D'accord.
Parce qu'ils sont dans une petite pièce, ils ont le droit de monter sur le divan et ça ne dérange pas. Alors, je suis une personne âgée de 83 ans et vraiment, pas de problème.
Ah bon, d'accord. Bien, bah écoutez, c'est vos chiens qu'on entendait à côté de vous, là.
Voilà.
Ils témoignaient alors, apparemment.
Ils témoignaient et ils descendent tout seuls dans le caniveau. Tout le monde est en admiration devant eux.
Apparemment, ils sont...
Et c'est facile, facile, facile.
D'accord. Bien, écoutez, moi, je vous remercie de votre appel. J'espère que les gens qui sont possesseurs d'un chien et qui ont du mal, justement, à faire en sorte que leur chien fasse leurs besoins dans les caniveaux auront entendu votre appel, donc. Mmh. Et donc, je vous remercie une fois de plus. Bonne journée.
C'est la conversation, surtout. Toujours répéter le même mot. Viens, tu fais pipi. Viens, tout de suite. Et il enregistre, il faut le répéter plusieurs fois. Et il le fait tout seul, c'est fini pour la vie.
Très bien.
Voilà.
Merci beaucoup, madame.
Au revoir.
Enfin, bonne journée.
Bien, 12h11 sur Radio Aligre. Encore quelques instants à passer ensemble. Il y a des choses qu'il faut savoir quand on... Antoine. Antoine est absolument hilar, je ne sais pas pourquoi. Il me perturbe quand c'est pas possible.
Il n'est pas sérieux, là.
Non. Alors non, Antoine.
Non, mais non, c'est parce que j'avais envie d'aller au caniveau. Alors.
Quelqu'un de très bien éduqué, Antoine.
Oui.
Oui, des choses qu'il faut savoir, c'est que quand on part en vacances et qu'on a décidé de descendre à l'hôtel, les hôteliers sont parfaitement libres de refuser des clients avec un chien.
Oui.
Moi, j'ai une petite méditation à vous faire part. C'est une affichette qui était disposée à l'entrée d'un hôtel et qui disait ceci. Les chiens sont les bienvenus dans cet établissement parce que, premièrement, ils n'essuient pas leurs chaussures sur les rideaux. Deuxièmement, ils ne collectionnent pas nos cuillères à thé. Troisièmement, ils n'emmènent pas comme souvenir nos draps et nos serviettes. Quatrièmement, ils ne font pas pipi dans nos lavabos et nos bidets. Cinquièmement, il nous amène seulement des clients agréables. Alors je trouve ça très très joli.
Ah, c'est très bien ça.
Très
ça,
très joli
bien,
et très mignon.
Ah oui.
Alors certainement que cet hôtelier était un ami des chiens, certainement.
Sûrement, oui.
Et qu'il acceptait donc les clients avec leurs animaux à quatre pattes. Alors vous qui descendez dans les hôtels avec un animal, eh bien faites en sorte justement qu'il ne perturbe pas trop la vie de l'hôtel. Ça pourra aider d'autres clients qui ont envie de dormir à l'hôtel avec leur chien. Qu'est-ce que tu en penses?
Bien sûr. Bien sûr, moi je trouve ça très bien. Moi.
Est-ce qu'on a un auditeur en ligne, là?
Non.
Ah, pardon. Bon. Alors, 12h13 sur Radio Alic, encore quelques instants avec Antoine, tout à fait hilar, Patrice et Jacqueline. Alors, on s'écoute un petit morceau de musique et je vous rappelle que vous pouvez toujours intervenir encore pendant les quelques minutes qui nous restent à passer ensemble, le 340 70 28.
Partage votre ragoût, sans amour on n'est rien du tout.
On n'est rien du tout.
Pour gagner les picaillons, il fut un méchant larron. On le saluait bien bas, n'oubliez pas. Un jour on fait la pirouette, et derrière les verrous, sans amour on n'est rien du tout.
On n'est rien du tout.
Et
Docteur Aligre, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va.
Ça va, le soleil est là.
Hein? Ah, quand il y a le soleil, la vie est là.
La vie est là, tout va bien.
C'est la vie.
Alors, on va parler de l'allergie aujourd'hui.
Mm-hmm.
De l'allergie. On rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent appeler à partir de 11h30 seulement.
11h30.
Pour poser toutes les questions qu'ils veulent. Alors, à partir de 11h30, 340 70 28. Oui, l'allergie, c'est un grand problème, je crois, pour nombre français. Il y a beaucoup d'allergiques en France.
Oui, à mesure que le monde industriel se développe, l'allergie aussi se développe. Et on peut estimer qu'il y a à peu près entre 15 et 20% d'allergiques en France.
Et des allergies de quel type hein?
Il y a toutes sortes d'allergies, des allergies à certains aliments, aux produits industriels, aux colorants, aux additifs, aux fameux additifs dont on parle souvent, enfin, à des tas de choses. Tout peut donner une allergie.
Mm-hmm. Une allergie, en fait, c'est une intolérance, tout simplement.
Non, une allergie n'est pas une intolérance. Justement, c'est là où il y a un petit peu une confusion dans l'esprit des gens. L'allergie répond à un autre mécanisme. Hein. Alors, qu'est-ce qu'une allergie? Bien. Alors, l'allergie, pour qu'il y ait allergie, il faut d'abord qu'il y ait un premier contact avec une substance quelconque. Que ce contact ait eu lieu par voie interne, donc en absorbant quelque chose, ou par voie externe, c'est-à-dire le contact physique de la main avec quelque chose. Bien. Alors, lors d'un contact ultérieur, il y a une réponse exagérée de l'organisme à cette substance. Donc, on dit qu'il y a une réaction allergique. Mm-hmm. Donc, pour qu'il y ait réaction allergique, il faut qu'il y ait eu un premier contact d'abord, et lors de contact ultérieur, il y a une réponse exagérée de l'organisme à ce contact, et ça donne une réaction allergique. Ça peut être de l'asthme, ça peut être de l'eczéma, ça peut être de l'urticaire, n'importe quoi.
Mm-hmm.
Bien. Tandis que l'intolérance médicamenteuse, excusez-moi, l'intolérance, oui, c'est tout à fait autre chose. On peut donner, par exemple, un médicament à quelqu'un pour la première fois, et ce médicament est mal toléré. Il peut donner, par exemple, des douleurs d'estomac ou des vertiges. Bon, ça, c'est l'intolérance. Ça n'a rien à voir avec l'allergie.
Mm-hmm. Mais on ne naît pas allergique, j'imagine, dans la plupart des cas.
Eh bien, si, justement. Si. C'est ça la grande injustice.
Hein. Uh-huh. Plus. Hein.
Ben oui, l'injustice fait partie de la vie de la nature. Bon, c'est à nous, les humains, de faire en sorte
gommer, de ne pas la subir.
Voilà, de gommer le plus possible les injustices les plus criantes. Hein. Bien, alors en effet, tout le monde ne fait pas une allergie. Il y a en effet des individus prédisposés. Alors, on le sait maintenant, il y a un terrain familial. Donc, il y a ainsi des familles d'allergiques, mm-hmm, et des familles de non-allergiques. Mm-hmm. Voilà, c'est comme ça. Alors, par contre, un enfant qui est né dans une famille de parents allergiques a beaucoup plus de chances qu'un autre enfant né dans une autre famille de développer ultérieurement une allergie quelconque à un moment donné de sa vie.
Mm-hmm.
Ceci dit, un enfant qui naît de parents non allergiques peut développer tout de même une allergie et ensuite il transmet ce caractère. Hein.
Mm-hmm.
Bon, mais ce caractère donc familial n'est pas une fatalité.
Mm-hmm.
Cela veut dire qu'il y a deux parents, l'un des deux a une allergie quelconque, un de ses enfants peut
l'avoir,
déclencher une allergie, et les autres enfants peuvent ne rien déclencher du tout.
Mm-hmm.
Donc il y a un terrain favorisant, mais ce n'est pas héréditaire à 100%.
Mm-hmm. Je crois qu'il faudrait peut-être différencier tous les différents types d'allergies que l'on rencontre, parce qu'il y a quand même des différences selon les réactions qu'on fait par rapport à un produit X ou une substance X. Alors, on peut peut-être commencer par parler des allergies respiratoires, qui sont les plus nombreuses, peut-être.
Qui sont certainement parmi les plus nombreuses et les plus gênantes.
Mm-hmm. Donc, j'en connais quelque chose, parce que je suis moi-même une allergique à ce niveau-là. Le rhume des foins, je connais. Chaque printemps, c'est le désastre.
Malheureusement, dans ma famille aussi, vous voyez, on est tous concernés. Mm-hmm. Bien, on est tous des allergiques. Mm-hmm. Alors, les différentes allergies, oui, les allergies respiratoires tiennent une place prépondérante. Alors, on peut citer les différentes allergies, on ne va pas faire un topo exhaustif. Hein. Alors, on va citer les différentes allergies. La première allergie, l'allergie la plus bénigne, la plus souvent rencontrée, c'est ce qu'on appelle le rhume des foins.
Mm-hmm.
Alors, le rhume des foins, c'est très gênant, c'est bien ce que ça veut dire. Donc, c'est une allergie au pollen de graminées. Alors, bien sûr, les foins, il y a aussi des pollens.
Les poussières,
des tas de choses. Non. Le rhume des foins est dû à une allergie uniquement au pollen de graminées.
Ah bon?
C'est-à-dire au pollen de certaines fleurs, de certaines plantes, de certains arbres. Et cette saison pollinique, cette rhume des foins survient en général de mai à septembre.
Mm-hmm.
Ça dépend des régions de France. Il y a des régions où c'est un peu plus retardé, des régions où c'est un peu plus précoce. Mais le rhume des foins survient entre mai et septembre.
Mm-hmm.
Bien, ça frappe énormément des gens, dont votre serviteur. Alors,
et moi également.
Vous aussi, on va donner la main. Alors, une autre allergie aussi très fréquente, on peut appeler ça le rhume chronique, qui dure, comme son nom l'indique, toute l'année.
Mm-hmm.
Bon, vous aussi, bon. Alors, mais tous les rhumes chroniques ne sont pas d'origine allergique. Il y a des différents mécanismes, il y a des mécanismes réflexes. On peut avoir un rhume quand on a mangé quelque chose de très chaud, ça vous est souvent arrivé, vous avez le nez qui se bouche, bon, ça, ce n'est pas grave du tout. Mais beaucoup de rhumes chroniques de l'année, qui surviennent toute l'année, sont d'origine allergique, en effet. Beaucoup, pas tous. Et la plupart du temps, il s'agit d'une allergie à la poussière de maison. Bon, on va parler de la poussière de maison. Alors, la poussière de maison, ce n'est pas proprement parler d'une allergie à la poussière de maison, mais à quelque chose qui est véhiculé par la poussière de maison, par exemple les acariens. Alors, les acariens, ce sont des toutes petites bêtes, des tout petits insectes qui aiment particulièrement l'humidité et la chaleur et qui aiment bien se nicher au niveau des matelas des gens.
Ah
des
bon.
Matelas. Mmh. Voilà. Donc, ces petites bêtes aiment bien ça et elles se reproduisent très rapidement. En mourant, elles laissent des petits squames et ça donne des allergies aux gens. Donc, ça donne un rhume chronique. Et ça peut donner aussi l'asthme allergique.
Mm-hmm.
Alors là aussi, il faut dire que tous les asthmes ne sont pas allergiques.
Mm-hmm.
Tous les asthmes ne sont pas allergiques.
Mm-hmm.
On peut dire... Pardon, oui.
Mais c'est vrai que ça peut être provoqué. Bah, moi, je sais, je vais citer mon exemple. Quand j'ai une crise d'éternuement assez violente, en général, quand ça commence, j'en ai pour au moins 20 éternuements successifs, ce qui est quand même pas mal. Et
des
fois gênant quand on est dans un magasin ou en train de faire ses courses.
Oui.
Tu comprends, Eric?
Je comprends.
Ou quand on est derrière son micro aussi, également. Alors, après une crise d'éternuement, je me suis oppressée, comme un petit peu, c'est pas de l'asthme, j'imagine, mais...
C'est pas de l'asthme, mais c'est probablement une allergie quelconque, probablement à la poussière de maison.
Mm-hmm.
Bon, si ça s'arrête là, c'est pas la peine de faire un bilan, une désensibilisation. Bon, si ça s'arrête là, il faut pas pousser plus loin. Hein. Donc, il y a des allergies bien tolérées, qu'on peut respecter, des allergies moins bien tolérées.
Mm-hmm.
Ce soir au bar de la gare, Igor Agar est noir, il n'arrête guère de boire, car sa Katia, sa jolie Katia, vient de le quitter, sa Katia l'a quitté, il a fait chou blanc, ce grand duc avec ses petits...
Maintenant, nous vous proposons un montage radiophonique réalisé à partir de textes écrits. Ça s'appelle L'ombre d'un doute et le thème d'aujourd'hui, c'est la presse du cœur. Thank you.
aux oliviers. Dans la voiture d'Alexandro, qu'elle avait connue à Athènes un peu plus tôt, Lisa avait suivi cette route filante. Lisa était à Lourcos. Si Michel Xenopoulos avait su que leur destin allait de nouveau se croiser, sans doute aurait-il ce jour-là rebroussé chemin. Mais il ne le savait pas, et il roulait à plus de 140 à l'heure sur le large ruban déployé. Lourcos était une petite île au climat enchanteur, où les riches Athéniens avaient leur résidence d'été dont le luxe contrastait avec la sobriété des maisons où vivaient les pêcheurs. Sur les hauteurs de l'île, on trouvait encore des bergers disséminés avec leurs troupeaux dans des pâturages que le printemps recouvrait de narcisses. La végétation avait envahi les ruines, traditionnels vestiges du passé que toute l'île en Grèce, même la plus minuscule, recèle. 10 ans plus tôt, des fouilles avaient été entreprises, puis stoppées, après l'exhumation de quelques statues amputées qui n'ajouteraient pas grand-chose de plus à la richesse du patrimoine archéologique. Depuis, Lourcos était tranquille, avec ses deux mondes distincts, celui de la pauvreté joyeuse et celui du luxe un peu triste. Deux mondes qui se côtoyaient, se chevauchaient parfois, mais ne se confondaient jamais. Et, cependant... Peu avant, Michel était allé au port. Ça faisait longtemps qu'il n'était passé par là, à pied. Il avait traîné sur la grève, enjambé des cordages enroulés, regardé les hommes accroupis sur les filets qu'ils ravaudaient. Et il s'était rappelé Lisa. Depuis quelques semaines, Michel Xenopoulos pensait un peu trop à son premier amour. Prémonition de son retour? Peut-être. En tout cas, il regardait de plus en plus souvent vers les toits serrés du village de pêcheurs. Et aujourd'hui, il s'y était aventuré, avait rôdé dans le port, traquant le souvenir. 5 ans plus tôt, Lisa s'était installée dans l'une des maisons chaulées face à la mer. Lisa était française. Elle était venue à Lourcos avec un groupe de hippies. Elle n'était pas des leurs et ne s'était jointe à eux que le temps d'un voyage, d'une escale. Ils étaient repartis et elle était restée, si jeune, si désarmée en apparence, si forte pourtant. Il l'avait rencontrée sur la jetée, un jour de grand vent. Revenu dans une crique abritée, il était tombé sous le charme, amoureux pour la première fois, amoureux follement. Lisa l'avait aimé aussi. Elle écrivait leurs noms sur le sable mouillé. Lisa, Michel, Michel, qu'elle prononçait d'une voix tellement douce. la vague les effaçait. Était-ce un présage? Puis, elle était partie. Elle avait regagné la France. Pourquoi l'obsédait-elle après si longtemps? Michel Xenopoulos appuya davantage sur l'accélérateur. 170. Un obstacle devant lui et il crèverait l'horizon. Quelle importance! Derrière, c'était peut-être mieux qu'ici. Parfois, le vide de sa vie lui donnait le vertige.
Olivier.
Nationalité se côtoie, et je crois que si on n'aime pas les gens, on ne peut pas vendre. Donc il fallait quelqu'un qui aime bien les gens, qui soit réceptif à tous leurs problèmes, les guider dans leurs choix et s'occuper de leurs problèmes après la vente. Je pense que je correspondais à ce profil, c'est pour ça que M. Thierry Brisseau m'a embauché. Ensuite, on a eu besoin d'un directeur pour un autre magasin qui ouvrait. M. Brisseau m'a demandé de le tenir en me demandant de m'engager complètement afin que ça réussisse et ensuite, de fil en aiguille, on progresse. Hein.
Bien, le mystère règne car on a un auditeur ou une auditrice et on ne sait pas pourquoi, alors on va l'écouter comme ça on en saura davantage. Allô ?
Allô ?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour. Oui, moi, j'ai branché votre poste, j'ai écouté votre émission, je crois que vous avez des spécialistes, on en a ici, c'est bien ça ?
C'est cela, oui, exactement, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, vraiment des gens très compétents.
Moi, j'ai une chaîne qui est une marque allemande qui n'existe plus maintenant. C'est Rotel, enfin, je sais pas si vous connaissez.
Oh, ça existe toujours, monsieur Rotel, bien sûr.
Ah, ça existe?
Oh, c'est certainement, ça a dû être en rupture de stock au niveau de l'importateur France, mais ça existe toujours.
Ah, parce que j'ai toujours eu un problème pour me procurer des pièces ou des trucs comme ça, pour avoir des renseignements sur ces chaînes. Mais enfin, la question que je voulais vous poser, c'est que bon, moi, c'est une chaîne qui a une certaine valeur, je l'ai achetée en Allemagne, et j'aimerais la revendre en France, et j'aimerais savoir si vous faites des expertises, vous, à ce niveau-là, pour analyser la valeur.
Ça fait combien de temps que vous l'avez, votre chaîne Rotel, monsieur?
Deux ans.
Bon, écoutez, une expertise approfondie, on vous dit non, parce qu'on ne sait pas exactement comment elle a travaillé, cette chaîne. Mais par contre, avec les modes d'emploi que vous avez dû avoir de fournir avec votre chaîne, on peut à peu près expertiser la valeur.
Oui, alors si je veux connaître la valeur de ma chaîne, qu'est-ce que je dois, si je viens vous voir, je dois amener
Vous passez, oui, vous passez voir monsieur Jacques Hay avec les modes d'emploi de vos différents éléments. Oui. Et en fonction de la puissance, de la qualité de la chaîne, des têtes de lecture qui sont montées, de la conception mécanique des appareils, on pourra vous dire combien ça vaut.
Ah ouais, d'accord, d'accord.
Et également de la valeur d'achat de l'origine, monsieur.
Oui, mais l'état dans lequel elle est, c'est-à-dire ce serait une occasion, moi je veux la revendre, pour fixer la valeur, donc je dois me procurer automatiquement ces papiers dont vous parlez.
Oui, il faut d'abord voir votre facture d'achat de départ, oui, et mais... puis en fonction de la puissance de l'appareil et de sa conception, on peut évaluer à peu près un prix de revente. Et puis je vous conseille de passer une petite annonce dans un journal local ou à Radio Allègre, pourquoi pas.
Pourquoi okay. pas, c'est de 16h à 16h30. Hein.
Ok, d'accord. Bien, merci.
Ça va, vous n'avez plus de questions à poser?
Non, ça va, c'est seulement pour vous. Vous faites pas aussi, vous repassez, je sais pas si ça se fait au niveau des chaînes, mais il y en a qui procurent de racheter l'ancienne chaîne, ça se fait pas au niveau du matériel ici, je suppose. Si vous achetez, par exemple, chez vous, vous racheterez pas une ancienne chaîne.
Non, monsieur, on ne fait pas le marché d'occasion, hein.
Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est très dur au niveau de l'ici.
Voilà, on peut pas tout faire, nous ouais. on se borne à faire des produits neufs dans de bonnes conditions.
Ok.
Bien. Eh bien, je vous remercie et au revoir et à bientôt peut-être. Alors, nous en étions au personnel, alors restons-y. Est-ce que ça ne demande pas quand même des qualités, intellectuelles pour vendre? Des qualités humaines, certes, mais une culture générale assez...
Oui, il faut quand même avoir une... C'est cela, oui. Je veux dire, si on veut avoir le contact, il faut avoir une bonne culture générale. Mais un vendeur, c'est quelqu'un... je veux dire, bon, dans la IFI, c'est quelqu'un qui est passionné, qui aime son métier, qui est à la pointe de tout ce qui se fait, et il est certain qu'il doit avoir une capacité à apprendre assez importante.
Est-ce qu'on pourrait imaginer, par